Bonjour à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Didier Van Coverlaert pour son dernier roman, On dirait nous. Donc je pense que si vous êtes parmi nous, c'est que vous appréciez cet auteur. Donc moi, j'ai tout de suite une première question sur le titre. Donc la clé de l'histoire nous est donnée dès le premier paragraphe. Nous, c'est Soline qui parle à Ilan, son amoureux. Et Ilan, c'est celui qui nous raconte cette histoire à la première personne. C'est un couple de trentenaires qui vit littéralement d'amour et d'eau fraîche. Ils ont peu d'argent, beaucoup de problèmes et ils font l'amour à tout bout de champ ou plutôt un peu partout dans la ville avec une prédilection pour les lieux publics. Sauf que cette phrase aurait tout aussi bien pu être dite par Georges et Yoa, le second couple du roman, qui, eux, sont trois fois plus vieux. Alors, je pense que pour commencer, ce serait bien que vous nous lisiez le début du roman qui donne vraiment la clé.
Il y a des phrases anodines qui peuvent influencer le destin avec autant de brutalité qu'un serment ou un pacte. C'est ce que je me dis aujourd'hui lorsque je repense à ce samedi de printemps où, enlacés devant la grille, nous regardions le couple de vieux qui partageait un éclair au café, main dans la main, sur le banc du square Frédéric Dard. On dirait nous à leur âge. Ils se sont tournés dans notre direction d'un même mouvement, avec une attention soudaine, comme s'ils avaient entendu la réflexion de Soline et ressentaient la même impression. Ils nous ont souri. Lui, mince, élégant, argenté, le bronzage à peine ridé et le regard faïence balayé par une mèche soigneusement rebelle, ressemblait à une publicité pour croisière. Elle, toute menue, blouson polaire, basket rose et natte noire, avait l'air d'une petite fille déguisée en vieille dame. La peau mate, les pommettes hautes, le regard dense et fixe qu'ont les Amérindiens sur les photos dénonçant la déforestation, elle contemplait Soline avec une émotion intense, comme si elle lui rappelait une amie perdue. Il y avait un fauteuil roulant dans le prolongement du banc. L'assise servait de desserte pour leur goûter. Religieuse au chocolat, tartelette aux fraises, canette de Schweppes à deux pailles. Difficile de les virer, m'a exprimé Soline par une pression des doigts sur ma hanche. Samedi dernier, nous étions seuls au monde dans ce jardinet secret de la butte Montmartre, ce minuscule espace vert aux ornières dissuadant les poussettes, où, allongée la tête sur mes cuisses, elle m'avait pris longuement dans sa bouche à l'abri des annonces immobilières du Figaro. D'où ma légère déconvenue face à l'occupation de notre banc par ces squatteurs du troisième âge. Journal sous le bras, j'ai répondu à leur sourire d'un hochement de tête et nous sommes partis à la recherche d'une porte d'immeuble sans code qui nous permettrait de faire l'amour dans une cabine d'ascenseur. Depuis qu'on vit ensemble, nos fantasmes n'ont cessé de se multiplier au rythme de nos soucis. Les problèmes de travail et d'argent renforcent notre besoin éperdu de nous évader dans le plaisir, d'étendre notre territoire amoureux au-delà des limites d'un logement précaire, la seule légèreté qui nous reste, la seule valeur refuge, la seule façon d'imposer nos désirs à la réalité.
Merci. Maintenant, on va parler du genre. C'est vraiment un récit à suspense. Il y a une sorte de cliffhanger, enfin une sorte de point de suspension à la fin de chaque chapitre. C'est-à-dire que, en fin de chaque chapitre, on croit avoir trouvé une explication à ce qu'on vient de lire. Et il y a toujours un mot, un bout de phrase qui sème le trouble et qui nous entraîne sur une autre piste que celle que le narrateur ou que le lecteur croyait avoir trouvée. Par exemple, dès que j'ai actionné la fermeture du volet électrique, la lumière d'en face s'est éteinte. Je n'ai pas fait le lien sur le moment. Et hop, c'est reparti pour un tour. Ça fait vraiment penser au feuilleton. C'est-à-dire que quand on commence ce livre, on ne peut pas se dire bon, « allez, j'en lis trois pages et après j'éteins la lumière, je m'endors ». Il y a toujours une réclame
oui,
à la Tintin.
Oui, ça fait partie de ma perversité, ça. Mais qu'on peut appeler comme ça, ou alors de dire bon, le souci du lecteur. C'est vrai que pour moi, écrire, c'est dialoguer avec mes lectrices, mes lecteurs, à imaginer leurs réactions et à la fois faire remonter en moi des émotions qui sont importantes pour moi d'exprimer, de coucher sur le papier, d'être le meilleur intermédiaire possible entre mes personnages et mes lecteurs. Et puis de créer, en effet, comme vous disiez, cette volonté de tourner la page. Parce que moi, en tant que lecteur, c'est ce que je préfère. C'est, C'est un livre qui arrête un peu le temps, qui vous fait rater des arrêts en tram ou en bus, qui vous empêche d'éteindre la lumière. Voilà, c'est merveilleux quand le livre prend ce contrôle de la réalité et vous fait oublier le reste. Et c'est ce que j'aime en tant que lecteur, c'est ce que j'aime essayer de faire quand c'est moi qui écris.
Oui, mais enfin, les lecteurs, ils n'ont pas que ça à faire. C'est un gros livre et on
C'est pour ça que j'adore me faire engueuler, d'ailleurs, les gens qui me disent « Ah, j'ai pas pu vous lâcher, vraiment, je me suis... j'ai pas pu dormir. » Ou alors aussi, un monsieur ou une dame qui dit « Merci, hein, j'ai passé une nuit blanche à cause de vous, parce que mon mari ou ma femme m'a lu toute la nuit. » Donc ça fait partie justement de ce plaisir du retour des lecteurs. Moi, j'écris pour transmettre un plaisir, souvent perturbant d'ailleurs, parce que c'est pas caresser dans le sens du poil, c'est pas... J'aime les perturbations qui font remettre en cause notre rapport à la réalité, notre rapport à nous, notre défaitisme, tout ça. Et tout à coup, une perturbation de la réalité agit comme révélateur et nous fait comprendre non seulement qui on est vraiment, mais ce qu'on peut faire et ce que les autres attendent de nous.
Exactement ça. Il y a une phrase que vous citez, un hasard n'est jamais perdu, un peu comme un bienfait. Vous dites que c'est une phrase que Marcel Aimé a
dite à Frédéric Dard. C'est Frédéric Dard qui était mon ami qui m'a répété cette phrase qui est tellement formidable parce que c'est une conception de la vie. Justement, on n'est pas là dans le hasard classique ou alors dont on parle au négatif en disant il n'y a pas de hasard. On est dans ce que Jung appelait la synchronicité, c'est-à-dire des coïncidences chargées de sens qui sont comme une réponse de l'univers à des questions que vous vous posez, comme un écho, tout à coup vous pensez à quelqu'un, pof, il est dans la rue, vous le rencontrez. Toutes ces choses qui, lorsqu'on en parle, elles se produisent encore plus. Ces choses sont à la fois très mystérieuses et très familières. Et dire qu'un hasard n'est jamais perdu, ça veut dire que ce qu'on va faire de ces coïncidences, tout ça, l'avancement dans notre réflexion, le trouble, sont des choses qui permettent de faire avancer la conscience, la compréhension du monde, de la réalité, du pouvoir des rêves, du faux hasard, d'une espèce d'illusion, réelle ou non, que ce que nous vivons est scénarisé peut-être par nous, à notre insu. Quand la physique quantique aujourd'hui nous prouve que c'est notre conscience qui crée le monde, c'est quand même très valorisant, je trouve. Et c'est pour les romanciers, par exemple, et je suis loin d'être le seul à qui ça arrive, ce sentiment incroyable qui nous arrive souvent. On croit avoir inventé quelque chose, et puis ça se produit tout de suite après, ou alors on découvre que ben non, ça existait déjà, on ne le savait pas.
Alors, Marcel Aimé pour la fantaisie, Frédéric Dard, le roman commence dans le square Frédéric Dard, finit et se termine.
On parle de hasard. C'est vraiment... Marcel Aimé, je ne l'ai pas connu. J'ai été ami avec sa veuve. J'ai été dans son appartement où il a vécu, où il est mort. Et à la mort de sa veuve, j'ai racheté son bureau et son fauteuil. C'est vraiment... Ça a été mon premier grand choc de lecture, grand coup de cœur quand j'avais 15 ans. Et j'aurais tellement aimé connaître cet homme qui, humainement en plus, était quelqu'un d'exceptionnel. Et j'ai eu la chance de connaître Frédéric Dard, de découvrir... Un jour, je lui ai donné un prix littéraire, qui était un prix qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait le prix de l'insolence, dont je présidais le jury. Et là, j'ai découvert que cet homme, qui m'avait vraiment appris, comme Georges Brassens d'ailleurs, l'invention truculente du langage, rendre les mots à la fois des mots anciens un peu oubliés, qu'on remet au goût du jour, à qui on redonne une modernité, et puis des néologismes qui tout à coup paraissent des évidences. Et lorsque je découvre que Frédéric Dard me lit et qu'il aime mes bouquins, voilà, c'est un cadeau merveilleux. Donc c'est pour moi de vrais amis tous les deux, même si je n'ai pas connu Marcel Aimé en dehors de ses livres. Et bien voilà qu'à Montmartre, il y a 10 ans à peu près, on donne le nom de Frédéric Dard au jardin qui est juste au-dessus de la place Marcel Aimé. Et le livre commence dans le square Frédéric Dard, et le mur de soutènement de ce square, c'est le mur de la place Marcel Aimé, où il y a la statue du passe-muraille qui sort du mur. Le passe-muraille que j'ai adapté en comédie musicale pour Michel Legrand, gros succès international qui m'a fait tellement plaisir de remettre au goût du jour l'œuvre de Marcel Aimé. Donc vous voyez l'impression que tout ça, c'est pas moi qui l'ai choisi ça. Mais je savais que ça se passerait là, ce roman, parce que avant même. Parce que très souvent, on a l'impression que je produis beaucoup, je fais un roman par an, mais je n'écris pas un roman par an. Il y a peut-être un an d'écriture, mais il y a des années de rêve, de cohabitation avec mes personnages. Je ne peux vraiment me mettre à la rédaction que lorsque le roman est prêt. Prêt à être écrit. C'est-à-dire que les personnages demandent à sortir, je ne peux pas faire autrement que de me mettre à écrire, donc ça je le sais. Mais bien avant, donc même que le Square reçoive le nom de Frédéric Dard, je voulais une histoire comme ça d'espionnage mutuel de chaque côté de la rue, comme ça, entre un jeune couple et un vieux couple, mais j'avais pas encore mon sujet, ma thématique, j'avais le décor, j'avais le lieu.
Alors à propos des lieux, c'est un roman très parisien qui se passe à Montmartre, mais en même temps, le roman nous entraîne aussi dans des endroits beaucoup plus improbables, comme le cap d'Antifer près d'Étretat, ou Knokke-le-Zoute, et jusqu'en Alaska. En tout cas, c'est des lieux très photogéniques, très forts visuellement. Si ce livre devait être adapté au cinéma, quel serait votre réalisateur?
C'est trop tôt pour que je puisse répondre à cela, parce qu'on est au moment où le livre est sorti il y a 5-6 jours. C'est ce moment toujours à la fois émouvant, anxiogène, tout ça, où on attend le retour. Bon, on a quelques idées, puisque les journalistes l'ont reçu avant, on voit tout de suite quand ça a plu. Bon, là, c'est un démarrage très, très, très fort, avec des tas d'émissions le jour même de la sortie. Et puis des ventes qui ont démarré très vite et très fort. Mais il n'empêche, il y a une anxiété toujours. Donc je suis, comment vous dire, je suis avec mes personnages, je suis comme un père qui accompagne à l'école, à la rentrée des classes, les enfants, faut voir comment ça va se passer, la rentrée, comment. Donc je ne suis pas du tout encore suffisamment détaché pour déjà penser au moment où le cinéma va, voilà, où j'aurai un choix à faire entre peut-être différentes propositions, comme c'était le cas pour Jules, mon précédent livre, avec choisir tel réalisateur, avoir envie de tel ou tel acteur. Là, je n'imagine personne d'autre dans mes personnages avec qui j'ai passé des mois, sinon des années, et que je vois très précisément physiquement. Je prends jamais un acteur pour donner l'apparence de mes personnages, ou inversement. Donc, franchement, non seulement je ne sais pas quoi répondre à votre question, mais je n'ai pas envie de me poser déjà cette
Mais
question.
ça veut dire aussi que si un réalisateur vous sollicite, c'est vous qui ferez le casting. Vous avez une idée très précise de ce que
On
vous
en
voulez.
discute. Voilà, par exemple, David Moreau, le réalisateur qui va tourner l'adaptation de Jules, son projet m'a intéressé parce qu'il était d'accord avec mon choix d'acteur aussi. Donc voilà, c'est un dialogue aussi, c'est une envie de pas être trahi, de vérifier s'il a bien senti les lignes de force du livre, la couleur, la tonalité que vont incarner tels acteurs, mais pas tels ou tels autres, quoi. Donc là, j'ai pas envie d'être déjà à cette
Et
étape-là, vous
pourtant,
voyez, je savoure ce moment.
vous êtes quand même très cinéphile, alors je vais vous demander de lire
Le piège.
la description de l'atelier
Oui,
Cinémobile.
on parle de Georges, donc le vieux professeur de linguistique marié à cette indienne et qui va peu à peu s'infiltrer dans ce couple et les emmener à la fois dans sa réalité, dans ses rêves, dans ses fantasmes et dans
J'ai
les choses assez
une
spéciales.
petite parenthèse pour
Oui.
montrer que le voisinage et le parrainage de Marcel Aimé et de Frédéric
Frédéric.
Dard ne vous ont pas raté. Le Georges, là en question, il va faire à un moment donné une interruption volontaire de vieillesse. Voilà.
Merci d'avoir appelé. Et Georges vient de venir chercher le jeune couple. Alors il a disparu, bon, sans dévoiler tout ça, mais au moment où il s'est retrouvé seul. Et il vient les chercher sur la butte Montmartre, au milieu d'une énorme voiture qui est. La Cadillac de Ville qui a tourné dans Le Corniaud avec De Funès et Bourvil. Et voilà où on se retrouve après. L'atelier Cinémobile était un garage-musée où s'alignait dans le désordre la mémoire roulante du grand et du petit écran. Isota Fraschini d'Eric von Stroheim dans Sunset Boulevard, Batmobile 1963 de la série Batman, Matra 530 de Jean Gabin dans Le Pacha, Aston Martin DB5 de James Bond, Bentley Spitzix de John Steed dans Chapeau melon et bottes de cuir, Plymouth Rouge 100 de Christine, Alfa Romeo Spider de Brigitte Bardot dans Le Mépris, Ford Gran Torino de Starsky et Hutch, Ambulance Ecto-1 de Ghostbusters. Ça, c'est... Oui, vous parlez de cinéphile, et je suis aussi, peut-être même surtout, un passionné de voitures anciennes. Et j'ai connu, je vois, des cascadeurs, voilà, qui ont connu ces voitures. Mais je ne savais pas qu'il existait ce genre de garage qui louait ces voitures célèbres dans le grand ou le petit écran. Et c'est après la publication du livre que j'ai découvert une publicité pour louer une vedette de cinéma. Et ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, il est normal que dans la réalité, quelqu'un ait eu cette idée-là, qui est une bonne idée sur le plan financier, sur le plan commercial et tout. Mais franchement, je ne savais pas. Et l'impression que la réalité vous fait des clins d'œil par rapport à ce que vous avez cru inventer, ça j'aime bien.
Et même dans le livre, hein, parce que c'est un roman très, très marrant, mais en même temps très grave, on va y venir. Et il y a des enjeux, pas de vie et de mort, mais enfin, il y a des enjeux très, 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 très forts. Mais à un moment donné, il faut quand même rendre l'Aston Martin DB5 de James Bond parce qu'elle est louée pour un tournage de pub. Même dans le livre, la réalité, elle est quand même très... elle nous rappelle...
Oui, et puis, voilà, c'est... En fait... On réenchante le monde avec des choses qui sont des perturbations, comme tout à coup dans une situation dramatique que vit Georges. Voilà, ça se passera mieux en Aston Martin de James Bond, alors que vraiment ils sont très très mal les deux hommes à ce moment-là. Il faut essayer d'apprivoiser cette situation, il faut essayer de faire un truc un peu fou et de se retrouver en plus dans la situation où ils sont tous les deux seuls, dans l'état de solitude par rapport aux femmes qui ont disparu de manière différente l'une comme l'autre, et ces deux, ce vieillard flamboyant et ce jeune paumé se retrouvent ensemble dans la voiture qui a joué dans la James Bond, celle qui servait pour le plan intérieur, c'est-à-dire avec les, si vous vous rappelez, dans Goldfinger par exemple, la trappe avec les commandes des différents gadgets, les nappes d'huile qu'on lâche derrière pour que les poursuivants... quitte la route, les clous, la cisaille qui sort des roues à papillons pour tronçonner les pneus de la voiture latérale, la mitrailleuse, tout ça. Et là, ce sont bien sûr des commandes factices, mais le fait d'être dans une voiture avec toutes ces commandes factices, y compris le siège éjectable, il y a un moment, voilà, c'est vrai que je préfère, plutôt que de faire trois pages sur les états d'âme des personnages, quand il y en a un qui agace profondément l'autre... Quand le jeune homme refuse de faire ce que fait le vieux, tout à coup, il a le réflexe de poser la main sur la commande du siège éjectable. Quoi. Et même si elle est factice, ça rend compte d'un état d'esprit, je n'ai pas besoin de plus d'explications. Quoi.
Voilà, donc c'est plein de gadgets comme ça, mais pas que. C'est aussi un récit très... Donc c'est un récit à suspense, c'est un roman plein de fantaisie, mais c'est aussi un ouvrage très documenté, avec des Amérindiens, les Tlingit.
Tlingit à la française. Tlingit. À la Tlingit, ça se prononce à Tlingit. Donc,
la réincarnation, de la musique, le pouvoir de la musique sur les plantes, de la botanique, enfin les voitures de collection, c'est extrêmement documenté. Donc moi, je passais mon temps à me demander si c'était vrai ou pas, si c'était... Bon, heureusement, à la fin, il y a note de l'auteur, il y a une sorte de bibliographie. Enfin, vous nous donnez toutes les clés.
En fait, tout est
vrai.
Tout est vrai dans mes livres, et particulièrement ce qui a l'air complètement fou. C'est ça qui m'intéresse.
Par exemple, les pissenlits à caoutchouc.
Oui, bah, absolument. C'est
Ilan. C'est pas du Marcel Aimé en même temps.
Mais justement, j'adore quand on me dit oh, vous avez une imagination folle. Je dis non, c'est dans la réalité. C'est la réalité aussi qu'il y a de l'imagination. Et quand on me dit. Ça ne peut pas s'inventer. Eh bien, si, je l'ai inventé. Donc, ça, deux réflexions qui me font très plaisir quand les gens se trompent, parce que j'essaie de traiter de la même manière ce qui est vrai, ce que j'ai appris, ce qui est réel, et puis ce qui est totalement inventé, de manière à ce que ça fasse un roman qui fasse vrai, même si on a l'impression que c'est inventé. C'est ça, la vérité du romancier. C'est pas l'exactitude du journaliste. C'est d'assembler à la fois le produit de l'imaginaire pur et puis ce qu'on trouve tellement intéressant dans la réalité, des choses souvent sur lesquelles les gens n'ont pas le temps de s'arrêter. Par exemple, puisque vous parliez des pissenlits à caoutchouc.
Oui.
Alors ça, ce sont les merveilleux cadeaux que vous font la vie lorsque vous êtes en pleine écriture et quelqu'un comme ça à table lance un truc que vous ignorez et que vous attrapez aussitôt tellement ça va bien dans votre livre. Et il se trouve que Ilan, le jeune homme, ses parents étaient jardiniers dans une propriété, dans un château en Savoie où il a grandi. Il était le fils des jardiniers, où il a appris les livres dans la bibliothèque de la vieille châtelaine, où les livres étaient classés par ordre alphabétique, ce qui fait que, bon, à la mort de ses parents, il était resté, mais à la mort de la vieille dame, ses héritiers l'ont viré pour vendre le château. Et donc, ça, il a une culture à la fois très fouillée, mais jusqu'à la lettre M, quoi, ça s'est arrêté, puisqu'il a été viré à ce moment-là. Et je voulais que son père lui fasse un cadeau, ce genre de cadeau sans mode d'emploi, avec une plante qui ait des pouvoirs magiques, mais qui soit réel, quelque chose qui... Et c'est là, je ne savais pas que choisir. Je suis un passionné de... Tout ce que vous citiez, ce sont mes passions. Moi, je ne peux parler bien que de ce que je connais, de ce qui m'importe, en tout cas. Et c'est vrai que je suis un passionné des plantes, des arbres, tout ça, mais mes lecteurs le savent. Et là, je voulais quelque chose, bon, que je n'ai pas déjà dit, j'aime bien me renouveler. Et là, dans un dîner, c'était le mari de ma notaire, qui se trouve être le directeur de l'association des amis des jardins alpins, et qui parle tout à coup de... comme s'il avait lu, je ne parlais pas du tout du sujet de mon roman, et la conversation en vient sur la crise de l'EVA, c'est-à-dire l'arbre à caoutchouc, qui est menacé aujourd'hui par comme beaucoup d'arbres malheureusement, par un champignon indestructible, et se pose un énorme problème, me dit-il, pour l'industrie pneumatique mondiale, parce qu'il faut absolument 30% de caoutchouc naturel dans les pneus pour qu'ils restent souples à basse pression et qu'ils n'éclatent pas. Et pareil dans les gants chirurgicaux, pareil, le latex niveau synthétique, ça ne marche pas. Et donc là, que faire? Et il me dit, bon, il reste la solution qu'on avait trouvée pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les routes d'approvisionnement en caoutchouc naturel étaient coupées par les Japonais. Eh bien, les Russes avaient trouvé les pissenlits à caoutchouc, un pissenlit du Kazakhstan qui fabrique du latex naturel, avec un problème, c'est que ce latex coagule trop vite, donc le rendement est très faible, et c'est très compliqué, mais au moins ça permettait de fabriquer des pneus pour les jeeps, pour tout ça, pour les camions. Donc ça a été vraiment une solution pendant la guerre formidable. Et puis après, dès qu'à la fin de la guerre, on a pu se servir de l'EVA, c'était tellement plus simple qu'on a oublié le coût du pissenlit. Et j'imaginais justement cet enfant qui a la mémoire de ce père mort qui lui a fait ce cadeau formidable en lui disant « Il y a l'or jaune qui est à ta disposition. Regarde tous ces pissenlits, toutes ces mauvaises herbes. Si tu trouves le moyen d'empêcher la coagulation trop rapide de ce latex, tu seras le roi du monde. Celui qui aura réussi à extraire de manière rationnelle et avec un vrai rendement le caoutchouc du pissenlit. » Voilà des cadeaux extraordinaires dont il n'a rien fait. Il n'a rien fait, sauf que grâce à Georges, grâce au vieux Georges, grâce à la situation dans laquelle il va être mis, il va pouvoir enfin accoucher de ce rêve et faire de ce cadeau non utilisé de son père le moyen enfin de sortir de tous ses problèmes.
Ah, c'est un grand thème qui traverse beaucoup de vos romans, mais celui-ci en particulier, c'est la transmission, un peu la transmission au sens automobile. Enfin, c'est pas de haut en bas ou de bas en haut. C'est
merci de l'image qui est très très juste. C'est la courroie de transmission, bien sûr.
Je ne connais pas grand-chose, mais je pense à la machine à coudre, mais ça doit être pareil.
Une transmission. Oui, une courroie de transmission, c'est ce qui permet justement d'utiliser l'énergie qui est tournée de moteur pour que la voiture avance. Oui, j'aime beaucoup cette image-là de la transmission. Oui. Ce n'est pas uniquement pour être enrichi du savoir des autres, tout ça, c'est pour aider à avancer. Ça me fait penser à une phrase, une très belle phrase de Camus qui disait « La culture, c'est attraper le mouvement et continuer.
» Voilà, parce qu'en fait, il y a vraiment des histoires de parents. Lui est orphelin, il adorait ses parents. Elle, la jeune fille, fuit ses parents comme la peste parce qu'elle en est traumatisée. Il y a
Et
ces
elle essaie
personnes.
de reconstruire justement, de transmettre ce qu'elle n'a pas reçu, ce qu'on lui a refusé. Donc il y a la transmission au niveau de la fidélité, quand on a eu des choses à transmettre et qu'on a envie justement que ça continue, ce mouvement-là. Et puis quand on n'a rien reçu, l'idée de quand même inventer quelque chose qui va être
Et
transmis.
puis entre ces deux couples, 90 ans, 30 ans, pour imaginer que c'est ceux qui ont 90 ans qui transmettent à ceux qui ont 30 ans, mais en fait, la transmission, encore une fois, elle est très mécanique. Ça marche
Et elle marche dans les deux sens, parce que évidemment, ces deux vieux se greffent sur ce jeune couple, mais pas seulement pour leur prendre leur énergie de jeunesse, pour leur redonner leur énergie de jeunesse que le monde d'aujourd'hui a cassée. Et en fait, le comportement, la manière de voir la vie de ces deux vieux est infiniment plus jeune, entre guillemets, que celle de ce couple de trentenaires qui est bloqué par des tas de choses, par une précarité qui agit comme une érosion, par le renoncement au rêve, le fait qu'il faut se formater si on veut être inséré aujourd'hui dans la société et que faire. Et là, rencontrer ces deux extravagances généreuses, ces deux personnes qui s'aiment comme au premier jour parce que l'humour, et ça je le crois profondément et j'ai la chance de le vivre, l'humour est la seule chose qui puisse faire durer une passion qui, comme le croient beaucoup de gens, est condamnée à la brièveté par son essence même. Et ben non, la passion peut durer toute une vie, mais à condition de ne pas se laisser détruire par les effets secondaires de la passion, qui sont généralement la flamboyance qui s'use et ça n'est plus cela, la jalousie qui grignote, l'envie tout à coup de vouloir connaître autre chose parce qu'on a l'impression qu'on a fait le tour, que la personne que vous aimez ne peut plus vous surprendre comme avant. Non, il n'y a pas de fatalité là-dedans. Mais pour cela, il faut une connivence, une intelligence affective qu'ont ces deux vieux. Et ça va être une extraordinaire leçon d'énergie et d'amour que vont recevoir ces deux jeunes. Mais en même temps, ces deux jeunes, c'est eux qui ont déclenché chez les vieux cette renaissance à travers le besoin de transmission et de don.
C'est pour ça que je parlais de courroie,
C'est une
de
courroie,
machine à
c'est très
coudre,
juste,
parce
c'est
que
rond,
ça.
ça tourne, c'est cyclique, il y a pas. D'ailleurs, c'est comme ça que ça marche. Si, et comme dans les couples, c'est pareil. S'il y a un dominant qui aide, qui est là, et puis un dominé qui reçoit, à un moment donné, ça ne marchera plus. En revanche, que l'alternance agisse justement dans celui qui donne, qui aide, et puis tout à coup, qui se retrouve en position d'avoir besoin de l'autre, là, oui. Là, ça se rééquilibre et on a cette belle image que vous exprimez de cette courroie qui transmet dans un sens et puis dans l'autre.
D'ailleurs, c'est ce que dit Soline. Ilan lui demande pourquoi tu dis on dirait nous. Elle dit bah parce qu'on ne sait pas qui,
Lequel des deux
lequel des
protège
deux
l'autre?
protège l'autre. Et donc, c'est un peu un roman en 3D parce qu'il y a le cliffhanger dont je parlais. À chaque fin de chapitre, on a envie de passer au chapitre suivant. Mais ce on dirait nous, finalement, c'est à la fin, au début, dès le premier paragraphe, on sait que c'est le jeune couple qui le dit. Mais à la fin, on ne sait plus qui dit quoi parce que ça. Le vieux couple pourrait aussi bien le dire. Donc c'est un roman écrit à la première personne par un loser qui s'excuse. Enfin, ça finit bien. Le loser, le jeune de trentenaire, sera sauvé par les Belges, d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi, mais.
Il sauvé par son rêve. Ah, si, moi je le sais très bien, parce qu'il est beaucoup plus simple aujourd'hui de créer une entreprise innovante en Belgique qu'en France, et particulièrement en Flandre. Ça, c'est. Là, je n'ai rien inventé, malheureusement. C'est des sujets que je connais bien, et la législation, le comportement des banquiers et tout ça font que. Voilà, un gars de 30 ans qui n'est plus non plus suffisamment jeune. Des banquiers, qui est trop jeune auprès d'autres partenaires. Voilà, vraiment, il a surtout avec une idée complètement innovante et qui peut faire basculer l'ordre économique mondial en même temps, mais qui en même temps repose sur, puisque le moyen qu'il trouve, ça on va pas le dévoiler, mais
Non, pas du
le
tout.
moyen qu'il trouve pour empêcher la coagulation trop rapide du pissenlit, c'est un truc qu'au début de journée, c'est pas possible. Eh ben si.
Faut dire que le pissenlit, c'est un grand coup, mais avant ça, il avait quand même essayé des choses qui n'ont pas marché.
Ben, c'est-à-dire qu'il était dresseur de plantes. C'est-à-dire qu'il était auto-entrepreneur en alarme éco-responsable, c'est-à-dire végétale. Et là, ça aussi, ça a l'air complètement fou. L'idée qu'on branche une plante verte, un appartement, sur des électrodes reliées à une centrale d'alarme, et quand il y a un intrus qui arrive, la plante a une réaction qui va se transmettre sur le système d'alarme. Ah ben si, ça existe dans la vie.
Un peu comme un chien de garde, mais
Bon, moins efficace. Disons
en
que
moins efficace.
ce qu'on sait, ce qu'ont prouvé des botanistes, et ça a été publié, les expériences ont été reproduites et publiées dans Nature et Science, donc on n'est pas du tout dans le farfelu ni dans le paranormal. Les plantes sont capables de ressentir les ondes cérébrales des animaux, des humains, les variations d'intensité, donc le comportement, la peur, le danger, et même les images mentales, puisque il a été prouvé que ça a été prouvé par l'inventeur du détecteur de mensonges, Clive Baxter, un ingénieur militaire travaillant pour la CIA et qui avait inventé, et pour le FBI, pardon, et qui avait inventé donc ce détecteur le plus efficace sur les variations de pression sanguine. Quand vous dites un mensonge, quand vous dites à côté, vous n'avez pas la même. Et un jour, il a l'idée de brancher ça sur sa plante verte pour voir s'il va se passer quelque chose. Et oui, l'électroencéphalogramme note, il y a bah, ça vit une plante, donc c'est normal. Et il dit, je vais voir si j'obtiens des variations en la perturbant. Et il est en train de boire un café et il plonge une feuille dans le café chaud. Il y a un tracé significatif d'une modification de vibratoire de la plante. Mais ce n'est pas très significatif, ça correspond à l'ennui d'une forme de genre, vos questions m'ennuient, un désagrément chez l'être humain, puisque tout est classifié par son détecteur de mensonges. Et il se dit, mais bon, ce n'est pas suffisant, et puis en fait, là, la plante, elle n'est pas en danger. Elle est habituée dans la nature à avoir du gel, à avoir trop chaud. Donc, qu'est-ce que je pourrais trouver pour vraiment faire une perturbation? Ah ben, et il se dit, je vais aller chercher un briquet dans le bureau à côté, puis je vais mettre le feu à une plante. Donc, il se dit ça. Donc, il se dit, ça veut dire quoi? Qu'il crée l'image mentale du briquet. Et à ce moment-là, il y a un pic d'alerte maximum sur l'électroencéphalogramme qui se produit. Et là, il dit, mais c'est pas possible, je n'ai rien fait à la plante. J'ai juste pensé. Et alors là, il va chercher le briquet, il revient et il passe à l'acte. Et en fait, quand il allume la feuille, il y a une réaction, mais beaucoup moins importante. C'était la première fois qu'il y avait. Alors évidemment, cette expérience, elle est reproduite et ça marche à chaque fois. Et on sait depuis, là on est dans les années 70, et on sait aujourd'hui comment les plantes réagissent aux ondes mentales. Elles-mêmes émettent des ondes vibratoires qui auraient été appelées les cryptosomes et qui réagissent non seulement à l'état psychologique de la personne qui est là, à son identité aussi, puisque ça, je vais revenir dessus par rapport au détecteur d'alarme, mais aussi aux images mentales. Donc, voilà, c'est un domaine de recherche qui me fascine et qui a fasciné avant moi des grands botanistes comme Jean-Marie Pelt, qui était un grand ami et qui m'a appris voilà, toutes ces choses. Et par exemple, bon, votre plante verte chez vous, elle est habituée à votre présence. Et si tout à coup, il y a un inconnu qui arrive, elle va avoir une réaction parce que ce ne sont pas les mêmes ondes, c'est pas la même. Et cette réaction, si en effet on branche un électroencéphalogramme, on va la capter. Et dans la réalité, quelqu'un a eu l'idée de coupler cet électroencéphalogramme avec un système d'alarme qui crée une sonnerie lorsque il y a. Mais évidemment, c'est pas fiable parce que bon, la plante peut s'habituer, elle peut. Si vous partez, vous laissez votre appartement vide, vous laissez pas de lumière, la plante elle va mourir, donc elle va pas réagir. Donc évidemment, il vaut mieux quand on veut être protégé avoir recours à une alarme volumétrique normale, bon, qui est pas. Ce qui fait que lui, son auto-entreprise, c'est une catastrophe. Parce qu'il dépense beaucoup d'énergie pour essayer de convaincre les gens de tout ce que je viens de vous dire. Et pour vous, en plus, vous m'écoutez, vous dites, il est fou, alors on va vérifier, mais allez vérifier, vous verrez que ce que je dis est vrai. Mais vous ne passez pas commande, je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose. Tandis que lui, il est en train d'essayer de placer, chose quand même assez cher, matériel cher, et puis avec une absence de garantie quand même assez flagrante. Donc, alors, il cible des personnes pour qui, des personnes très, très bio, des personnes qui, pour qui les ondes pathogènes des centrales d'alarme comme ça, il faut éviter. Alors là, vraiment, une alarme bio, là, ça peut les séduire. Donc, oui, c'est quelqu'un qui a ce genre de rêve. Mais pourquoi ? Parce qu'il porte cet héritage, cette, ce besoin de transmission de ce que lui a transmis son père, qui avait, comme on dit, la main verte, mais pas que. C'est un homme qui savait faire pousser des légumes géants en leur parlant, en leur jouant telle musique. Là aussi, c'est, on peut tout à fait booster les protéines des plantes avec un signal sonore et musical conforme au, au signal de leurs protéines. Ça, ce sont tous les travaux que je cite de Joël Sternheimer. Tout ça me passionne parce qu'on est dans une, comme dans mes romans, dans le pouvoir de, la, de l'interconnexion qu'on recrée avec l'imaginaire, qu'on recrée, qui sont dans les contes pour enfants, qui sont les, l'idée que tout communique. Et en fait, non, ce n'est pas, c'est pas des contes, ce n'est pas des inventions. Au départ, ça marche comme ça, la nature. Au départ, il y a 130 millions d'années, lorsque apparaissent à la fois les abeilles et les fleurs, les abeilles et les fleurs ne peuvent pas vivre séparément l'un de l'autre. L'abeille a besoin des fleurs comme nourriture, et les fleurs ont besoin des abeilles pour être pollinisées, pour se reproduire. Comme disait Darwin, qui appelait ça la coévolution, c'est la preuve que tout marche ensemble. Et enfin bon, je ne veux pas être trop long là-dessus, mais disons que rendre toutes ces choses très complexes et assez merveilleuses perceptibles et évidentes à travers une fiction comme, comme élément de l'intrigue est quelque chose à quoi je tiens beaucoup.
Parce que dit comme ça, c'est très sérieux et très justifié. Enfin, vous donnez votre bibliographie à la fin, encore une fois. Mais à la lecture, on dirait vraiment du Marcel Aimé. Enfin, c'est très fantaisiste, la manière
dont c'est raconté. Mais de toute façon, pour moi, la vérité même du Mire du Monde, c'est l'humour sous toutes ses déclinaisons. Je veux dire, la connivence, la complicité, l'ironie, le sarcasme. On a vraiment l'impression que le monde, la nature, parfois se venge en sautant de nous. Quoi. C'est, quand on regarde un petit peu comment fonctionnent les arbres, les plantes, comment tout, et comment l'être humain perturbe tout, et comment après, il en reçoit la punition. Un tout petit exemple rapide, tout le monde est de plus en plus allergique au pollen. On a l'impression que c'est une fatalité. Pourquoi ? Non, ça s'explique très bien. C'est que plus il y a de pollution, plus les arbres se sentant attaqués par quelque chose qui vient gainer leur système de transmission de pollen, vont rendre leur pollen plus fort pour qu'ils puissent se déplacer plus vite. Puisque le pollen, c'est quand même, je lâche comme ça, comme les bouleaux et tout ça, le plus loin possible. Et donc, ils sont de plus en plus allergénisants parce que les arbres ont peur qu'ils soient moins efficaces. Donc, ils compensent. Et on voit très bien dans des régions où une usine cesse de polluer, disparaît, les pollens perdent leur côté, ils reviennent à l'état ordinaire, parce que c'est plus fatigant pour la plante de fabriquer des pollens qui créent des allergies chez l'homme que de les laisser seuls. Alors, est-ce que la plante a l'intention de se venger sciemment sur l'homme ou pas ? Ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, elle réagit, non pas, à mon avis, par une agression délibérée, mais par un instinct de survie qui répond à une agression de l'homme. Donc, tout est, quand je vous dis cette espèce d'humour, de réponse comme ça, il est important justement d'avoir un regard de romancier qui essaie de comprendre de l'intérieur aussi bien les êtres humains que les plantes ou les animaux. Je crois, pour ne pas faire trop d'erreurs dans ce que nous appelons à tort l'environnement, mais non, il n'y a pas l'homme, acteur principal, et puis le décor, l'environnement, tout est connecté.
À propos de connexion, d'ailleurs, les deux femmes du roman sont aussi en connexion, puisque j'ai oublié de dire que Soline est violoncelliste, elle est musicienne, et Yoa, la vieille dame, est percussionniste, et elles sont elles aussi entrées en relation. Pour Yoa, par exemple, chaque instrument demeure relié aux arbres vivants dont il provient, et elles fraternisent, ou elles sororisent, je sais pas comment dire, enfin, elles rentrent en correspondance aussi toutes les deux par le même amour.
Oui, parce que ce que Soline ressent musicalement, charnellement, avec ce violoncelle, elle jouait sur un violoncelle que lui avait prêté un fonds de pension qui est un Gofriller de 1701. Gofriller et Stradivarius étaient vraiment, sont les plus grands facteurs de ces instruments. Et elle a gagné le concours Ostropovitch et, comme ça arrive dans la réalité, il y a une fondation, un fonds de pension, tout ça, qui possède ces instruments, qui le prête à un soliste brillant pour se faire de la publicité en même temps, pour que ces instruments vivent et soient dans les mains des meilleurs musiciens. Ça arrange tout le monde. Et simplement, c'est un prêt pour une durée particulière, et le jour où on lui reprend cet instrument, elle ne peut plus jouer sur un violoncelle ordinaire. C'est du bois de caisse, parce que la puissance extraordinaire de ce violoncelle de 1701 s'est donnée par les accidents du temps, par les trous de verre qui ont créé une sonorité extraordinaire. Ça pose d'immenses problèmes de se dire, est-ce qu'il faut restaurer ou pas un violoncelle comme ça? Est-ce qu'on ne va pas lui enlever ces accidents, ces pathologies qui créent sa richesse, sa personnalité? Donc Soline, elle vit avec le bois de cet instrument et elle ne supporte pas d'être séparée. Soline et Ilan, c'était une histoire à trois avec le violoncelle. Quand on lui reprend le violoncelle...
C'est un petit nom d'ailleurs. Oui. Le violoncelle.
On l'appelle Matteo, c'était le nom du Matteo Gofriller qui l'avait fabriqué. Donc voilà, elle vit avec Matteo. Elle vivait déjà avec Matteo quand Ilan est entré dans sa vie. Donc il a dû se faire avec. Et il doit faire sans. Et donc il va tout faire pour récupérer ce violoncelle dans lequel le vieux couple va l'aider grandement. Mais Yoaël, son tambour, c'est la même chose. C'est un. Les Indiens Tlingit. À 13 ans, doivent couper un cèdre jaune et tuer un daim afin de fabriquer leur tambour. Mais ce n'est pas prendre la vie de l'animal ou de l'arbre, c'est lui demander la permission de l'emmener dans une autre vie qui est celle d'un instrument de musique. Donc ça, c'est, là, je vous parle vraiment de la culture des
Oui, là, on est dans pour de vrai, hein, on n'est pas dans le roman.
Mais on est aussi, ce qui m'intéresse, c'est de traiter de la même manière, voilà, ce qui est inventé et ce qui est... le produit des grands mythes, des grandes cultures oubliées, des peuples premiers aujourd'hui. Et ce rapport, justement, tellement fort, il n'y a guère que les artistes, en l'occurrence les musiciens, qui peuvent le comprendre, parce qu'ils vivent ce rapport avec l'instrument. Lorsque je parle aussi d'une chose qui est réelle, qui est la grande pianiste qu'admire Soline, avec qui elle rêve de faire un concerto pour violoncelle et piano, c'est Natasha Paremsky, qui, dans la réalité, est allée en Alaska chez les Tlingit, à Sitka, qui est le seul endroit au monde où pousse l'épinette, qu'on appelle d'ailleurs l'épinette de Sitka, qui sert à fabriquer la table d'harmonie des pianos. Et elle a ramené son piano, comme elle dit, à la maison, c'est-à-dire dans sa forêt natale, pour jouer au milieu des arbres, des congénères. Donc de ça. C'est une expérience qu'on peut d'ailleurs voir sur YouTube, qui est extraordinaire. Donc voilà tout ce qui m'intéresse dans cette connexion dont on parlait, justement aussi bien entre les hommes, les plantes, les animaux, mais aussi entre un bois apparemment mort, qui continue à vivre comme instrument de musique, et ses congénères vivants. Là aussi, il y a un échange, nous dit la pianiste, qui nie, j'avais l'impression à la fois, d'un retour aux sources, de jouer devant... public et un orchestre d'arbres. C'est magnifique son expression, d'être la soliste au milieu d'un orchestre d'arbres.
C'est un roman écrit à la première personne, donc par un loser qui s'excuse, Ilan. Moi, j'ajouterais, mais qui se soigne, hein, puisque ça, ça finit bien. Il a une grande capacité à analyser sa vie et il ne se reconnaît qu'un seul talent, c'est celui de comprendre les autres. Et l'autre personnage, le Georges, qui a 90 ans, lui, il est un peu comme un écrivain. Il adore organiser la vie des autres. Il fait et défait les destins. Enfin, on se demande même si c'est pas Dieu de temps en temps. Donc, on a ces deux personnages masculins, 30 ans, 90 ans. Et il n'y a pas un peu d'autobiographie?
Énormément, mais dans les deux cas. Non, il y a des choses de... Pas de moi, pas de mon... ma vie, je dirais concrète, chez Ilan, mais il y a beaucoup de traits de caractère communs. Et puis c'est intéressant pour moi, qui ai eu la chance que mes rêves se réalisent. Ça a mis du temps, entre l'enfance, je commençais à écrire, et la publication, mais voilà, je suis le produit de mes rêves. J'ai forcé toutes les portes qu'il fallait, j'ai eu l'obstination qu'il fallait, ce que ne fait pas.
Vous êtes entre un loser et entre Dieu, c'est ça, entre un...
je vous laisse la paternité de cette réflexion. Non, je suis entre... c'est quoi être un loser? Ça m'intéresse d'aller à la rencontre du loser que j'aurais pu être et qui continue à vivre en moi parce que les événements ne nous modifient pas forcément. C'est pas... On n'est pas le produit non plus d'une réussite ou d'un échec. Et ça m'intéresse justement de me mettre en situation d'abord d'avoir... Je ne dirais pas que pour moi ça a été simple, mais j'avais une force de vocation, d'obstination très forte que n'a pas Ilan, qui doute beaucoup. Mais j'ai en moi aussi cette part de doute, et ça m'intéresse justement de rendre ce doute plus fort chez ce personnage. J'ai la même hyper-lucidité que lui. Chez moi, elle n'est pas invalidante. Chez lui, elle l'est. Donc je ne suis pas de l'école nombriliste comme écrivain. Je suis, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les autres de l'intérieur et d'en apprendre plus sur moi à travers mes personnages qui sont des déclinaisons très différentes de ce que je suis. Et le vieux monsieur, c'est celui que j'espère être un jour, pour le meilleur et pour le pire aussi, flamboyant et insupportable, aussi généreux qu'égoïste, aussi fort que vulnérable aux sentiments, quoi. Le sentiment profond que, sauf accident de la vie, toujours possible, je serai ce vieux monsieur, oui.
Mais ce
c'est une sorte d'autobiographie préventive.
Ou programmatique.
Ou programmatique, allons-y.
Mais je trouve que les personnages de femmes sont plus gâtés que les personnages d'hommes dans votre...
Toujours dans mes livres, parce que je préfère les femmes aux hommes. J'ai plus confiance dans les femmes, je les trouve plus... courageuse, plus complexe, plus forte, mais pas la force telle que les hommes la conçoivent, qui est souvent une armure, une épreuve de force, quoi. Chez les femmes, c'est comment utiliser et convertir la vulnérabilité en quelque chose qui est une force motrice, quoi. Sans vouloir schématiser, il y a des hommes qui fonctionnent comme ça aussi, mais de manière globale, et puis... Je sais a priori mieux comment fonctionne un homme qu'une femme, donc ça m'intéresse beaucoup plus d'essayer de comprendre de l'intérieur les réactions, le fonctionnement, les prises de décision d'une femme. J'en apprends beaucoup. Je pense que... je vais rentrer à la chose très intime, donc c'est pas la peine.
Allez-y, hein. Je pense que le public est là pour ça aussi.
Je pense qu'on aime mieux, que plus on comprend les femmes et mieux on les aime. Et mieux on est aimé en retour. Mais c'est une compréhension d'empathie aussi qui s'accompagne de malentendus, d'erreurs. Il y a plein de malentendus, il y a plein d'erreurs de compréhension dans ce livre-là. Parce que c'est à coup d'erreurs qu'on avance aussi. Et de prise de conscience de ces erreurs. Lorsqu'Ilan comprend les quelques erreurs qu'il a pu faire qui amènent au départ de Soline à un moment donné, tout le chemin qu'il fait pour essayer de la comprendre mieux, c'est-à-dire de la comprendre davantage, c'est-à-dire de l'aimer mieux, y compris cette chose extraordinaire qu'ils font avec Georges, qui est quand ils essaient de retrouver Soline, qui est partie pour des raisons qu'on découvrira dans le livre.
Mais on va tout raconter, oui.
Et ils font le tour de France de ses ex, de manière... Parce que peut-être elle est allée se réfugier chez un, elle a gardé des liens très forts avec chacun, et en même temps, c'est une femme différente à chaque fois pour entre eux, et une femme qui a laissé des traces qui ne sont pas les mêmes, qui a laissé le même bonheur et les mêmes ravages. Et le fait d'accepter de la comprendre à travers le fait d'aller vers les hommes qui l'ont aimé avant et qu'elle a aimé avant lui, c'est un grand pas que peut faire un homme dans le fait non pas de reconquérir une femme, mais de l'aimer mieux, donc de lui donner envie vraiment de revenir pour de bonnes raisons avec lui.
Alors c'est une super perche parce que je voulais pour terminer qu'on lise le portrait de Cédric qui est un des hommes qui fait partie de ce fan club de Soline. Enfin c'est pas un fan club,
c'est
la collection de ses ex.
Il s'appelle les Soliniens, quoi. C'est...
Voilà, c'est son harem.
Qu'ils aient refait leur vie ou non, ils sont quand même restés bloqués. Cette femme les a tellement marqués que voilà, c'est... D'ailleurs, chaque fois qu'elle rencontre un nouvel homme, elle le présente, elle le fait valider par ses ex. C'est pas forcément très agréable pour lui, mais bon, Ilan, il a connu ça. Et c'est comme ça qu'il a connu ces hommes vers qui il va aller ensuite pour essayer de retrouver Soline.
Donc le portrait de Cédric, il est exemplaire de votre style à la fois sur le fond et sur la forme, c'est-à-dire que je parlais de roman en 3D, j'ai pas trouvé mieux. À chaque paragraphe, à chaque fin de chapitre, il y a toujours un, ça bascule. Ça commence par on rencontre un cancérologue à la mode et puis plus dur est la chute. Donc un seul m'avait redonné confiance et un seul des Soliniens, donc le fameux
Pendant
Cédric.
le retour de France de ses ex, un seul m'avait redonné confiance, Cédric. Lorsque je l'avais rencontré à la brasserie des Ternes, c'était un jeune cancérologue à la mode. Un geste de compassion avait détruit sa vie. Plainte des ayants droit, mise en examen, détention provisoire, tout le monde l'avait lâché. Fiancé, famille, amis, confrères. Seul le soutien, les visites et les lettres de Soline l'empêchait d'être totalement détruit par l'univers de truands, djihadistes et violeurs où l'avait enfermé le délit d'euthanasie. Elle n'abandonnait jamais personne, m'a-t-il assuré. Quand elle prenait des distances, c'était pour mieux revenir en force, au bon moment et pour de vraies raisons. Il ne l'avait pas revue depuis qu'elle était enceinte. Sa dernière lettre datait de 15 jours. Elle ne lui parlait que de son bonheur avec moi et de ses démarches auprès du juge pour qu'il soit remis en liberté d'ici le procès. Et il me préviendrait dès qu'il aurait des nouvelles. Décharné, couvert de plaies et d'eczéma, c'est lui qui m'avait dit de tenir bon. La générosité de sa détresse m'a donné un coup de fouet auquel je ne m'attendais plus. Moi qui étais libre, je n'avais pas le droit de me soumettre au désespoir, de partir à la dérive sous prétexte que j'avais perdu mon point d'ancrage. Je suis ressorti du centre pénitentiaire de Lille avec une furieuse envie de changer de cap, de prendre le large tout seul.
Voilà, donc ce Cédric, ben, il commence cancérologue à la mode et il finit couvert de pustules, mais en même temps, c'est lui qui redonne de l'énergie. C'est sans arrêt comme ça.
C'est, comment dire, c'est montrer ce que m'enseigne souvent la vie, c'est que l'être humain est supérieur aux événements qui lui arrivent. Et que tout à coup, tout ce qui se déclenche sur ce moment que connaissent les médecins, qui est un vrai, vrai problème aujourd'hui, ce débat sans fin sur l'euthanasie, sur lequel il est impossible de trancher en règle générale, tout à coup, le patient vous demande d'abréger ses souffrances, et puis si la famille n'est pas d'accord, la famille se retourne contre vous, et tout à coup, des carrières se brisent comme ça. Donc voilà, c'est. Et j'aime bien. C'est une demi-page, Cédric, dans le livre. Ça me fait plaisir que vous l'ayez ressorti parce que ces rencontres-là, ce sont des petites chevilles dans le destin des gens. Et c'est vrai que c'est une rencontre absolument déterminante pour lui qui va lui faire un bien fou. Et parfois, les gens, dans la détresse complète, la manière dont ils réagissent et dont ce sont eux qui vous aident, c'est ça qui va vous permettre de sortir, vous, de votre problème, de votre détresse et d'entrevoir des solutions et de se dire cette chose qui est très importante. Je n'ai pas le droit, moi, de me soumettre au désespoir. Ça, c'est un truc. Y a quelques messages dans mes bouquins, il y a quelques. Voilà, et ça, c'est pas genre on n'a pas le droit de se plaindre, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un dans une situation de détresse totale, de perte de tout, ça ne l'a pas brisé, on doit, par respect pour lui, ne pas se laisser briser soi-même non plus, quoi. Parce que, comme il dit, bah, lui, il est libre. Bah, la liberté, il faut en faire quelque chose.
Alors maintenant, je vais dire un truc idiot s'agissant de littérature, pour finir, c'est que les mots sont vraiment les ressorts de cette intrigue. Donc, on a commencé par la première phrase. On dirait, nous, il y a des phrases anodines qui peuvent influencer le destin avec autant de brutalité qu'un serment ou qu'un pacte. À la moitié du roman, Soline dit, on fait comme si. Et lui dit quatre mots qui allaient bouleverser notre destin. Enfin, les mots sont super importants. Et donc, je ne vous dis rien de la dernière phrase, mais qui renverse à nouveau tout ce qu'on avait cru comprendre de toute l'histoire. C'est-à-dire que non seulement vous passez la nuit à le lire, et à la fin, mais vraiment la toute dernière phrase, je ne peux pas vous la dire, parce
Non,
que
non, non,
ça,
non, non, c'est
voilà.
vrai.
Et
Non, non, non.
ben, la toute dernière phrase renverse à nouveau, comme le pauvre cancérologue, là, renverse à nouveau tout ce qu'on a cru
Disons que
comprendre.
ça, non, ça ouvre une porte, et puis voilà, juste, du moins ça signale la présence d'une porte qu'on peut ouvrir.
Oui, ça
C'est.
bascule carrément. Enfin,
Ah oui, mais ça peut s'interpréter d'autre manière. On va pas dire de quoi il s'agit, mais
non.
justement, moi j'adore ces fins ouvertes. Alors on s'est installé dans une fin qui est une fin plutôt heureuse, tout ça. Bon, et puis, il y a quelque chose qui fait que ce qu'on croyait résolu ne l'est pas forcément. Et ce n'est pas forcément un mal. Donc, voilà, j'aime. Ça, c'est, je parlais de mon dialogue avec le lecteur, de ma, cette envie de connivence. Bah, jusqu'à la fin, oui, il y a ça. Et, mais merci de parler du pouvoir des mots, parce qu'un roman, ce n'est pas uniquement des idées, des trouvailles, des personnages, une technique narrative qui donne envie, justement, de ne pas lâcher le livre. C'est aussi. C'est une construction musicale. Moi, j'écris à voix haute. J'écris pour que. Et je fais comme l'appelait Flaubert, mon gueuloir. C'est-à-dire, je lançais les phrases et avoir le retour son, vérifier si l'image que je veux donner, elle est là. Plutôt que de faire plein de descriptions, je prends des points très précis. Et parfois, la sonorité va créer l'image. C'est ça que je veux. Et vérifier si le changement de vitesse, l'accélération, le bémol fonctionne. Donc
attendez,
ça, je m'en
changement de vitesse, accélération, vous prenez de l'image musicale. Moi, je pensais que ça ressemblait vraiment à, j'y connais rien, hein, mais à un moteur de voiture, parce que je trouve qu'il y a une
aussi
mécanique.
Oui, il y a la montée en régime, ça
rétrograde
parfois.
C'est très mécanique.
Oui, mais la musique marche aussi comme ça. Je veux dire, à un moment donné, on a un thème qui est développé, qui est cassé, qui est repris, qui est morcelé, qui accélère, qui ralentit. Et on parle de la musicalité d'un moteur. Les Aston Martin sont des moteurs d'une musicalité dans les graves, c'est exceptionnel.
Ben merci.
Merci.